Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Kevin Boisseau, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Grégoire Leménager, Philippe Chevillier et Jean-Christophe Brianchon pour parler ensemble de « Un monde à portée de main » de Mélisse de Kerangal chez Vertical, « Désintégration » d'Emmanuel Richard aux éditions de l'Olivier et « Wild Side » de Michael Imperioli chez Autrement. Nous aurons aussi droit au coup de cœur de Philippe Chevillier pour... Ah tiens, je vais laisser le suspense ce soir. Attendez, guettez le coup de cœur de Philippe Chevillier. Boris Pino est là pour donner à entendre les commentaires que vous auriez à faire sur notre sommaire via Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour découvrir le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris à l'occasion de son 20e anniversaire. Nous poursuivons donc ce soir l'exploration de la rentrée littéraire avec, pour commencer, une auteure dont le nouveau roman était très attendu après le succès du précédent. Je veux parler de Mélisse de Kerangal, dont le livre « Réparer les vivants », sorti en 2014, a récolté 10 prix littéraires, a été adapté 2 fois au théâtre, 1 fois pour l'heure au cinéma. « Un monde à portée de main » lui succède, nous fait découvrir Paula, étudiante à l'Institut de peinture à Bruxelles à la fin des années 2000, où elle apprend l'art du trompe-l'œil. Elle s'y lie d'amitié avec 2 autres élèves, mais c'est Paula dont on va suivre les débuts compliqués dans la vie active. Paula Karst apparaît dans l'escalier. Elle sort ce soir. Ça se voit tout de suite. Un changement de vitesse perceptible depuis qu'elle a claqué la porte de l'appartement. La respiration plus rapide, la frappe du cœur plus lourde, un long manteau sombre ouvert sur une chemise blanche, des boots à talons de 7 cm et pas de sac. Tout dans les poches, portable, cigarette, cash, tout. Le trousseau de clés qui sonne et rythme son allure, frisson de caisse claire, la chevelure qui rebondit sur les épaules, l'escalier qui s'enroule en spirale autour d'elle à mesure qu'elle descend les étages, tourbillonne jusque dans le vestibule, après quoi, interceptée in extremis par le grand miroir, elle pile et s'approche, sonde ses yeux verrons, étale de l'index le fard trop dense sur ses paupières, pince ses joues pâles et presse ses lèvres pour les imprégner de rouge, cela sans prêter attention à la coquetterie cachée dans son visage, un strabisme divergent, léger, mais toujours plus prononcé à la tombée du jour. Avant de sortir dans la rue, elle a défait un autre bouton de sa chemise. Pas d'écharpe non plus quand dehors c'est janvier, c'est l'hiver, le froid, la bise noire, mais elle veut faire voir sa peau et que le vent de la nuit souffle dans son cou. C'est le tout début d'Un monde à portée de main que je viens de lire. Ce nouveau livre de Mélisse de Kerangal paru chez Vertical, et c'est Grégoire Leménager qui commence à nous en parler, Grégoire.
Oui, comme vous l'avez dit, c'était un roman qui était extrêmement attendu compte tenu du succès vraiment phénoménal de Réparer les vivants. Je crois qu'il faut insister là-dessus parce que Mélisse de Kerangal, c'est quand même peut-être avec Mathias Hénard, mais Mathias Hénard a été porté par le prix Goncourt. C'est un des rares auteurs qui, comme Mathias Hénard d'ailleurs, vient du collectif Inculte, qui pratique une littérature chercheuse, quoi. C'est pas de la littérature expérimentale, mais disons que tout de même, on l'a bien entendu quand vous avez lu, dans le phrasé, dans le rythme, dans le travail sur les sonorités et tout ça, à un niveau stylistique, il y a quelque chose qui est de, qui se veut un peu novateur, qui bouscule la syntaxe classique, disons. Il y a un intérêt aussi, il y a un renouvellement aussi thématique, parce que il y a Joyce Ormond qui fait ça aussi un peu, qui elle aussi est passée par le collectif Incul d'ailleurs. Il y a une volonté de faire une sorte de roman documentaire. Alors on va me dire le roman documentaire, Zola en faisait déjà, oui bien sûr. Mais là il y a quelque chose de très très, un intérêt pour la technique vraiment, mm-hmm. pour les gestes, pour les matières qui sont utilisées. Tout ça pour dire que le succès de Réparer les vivants était quelque chose de considérable compte tenu des audaces enfin de quelqu'un comme Élise Kerangal. Et là, j'entends ici et là que ce livre-là est décevant par rapport à Réparer les vivants. Je pense que ça procède d'un point de vue un peu étriqué sur les choses. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de le resituer dans l'ensemble de son œuvre et la manière dont elle se focalise sur ce personnage de Paula Karst a quelque chose d'un peu aride à un moment. C'est vrai qu'il y a toute une phase qui est la phase de la formation technique de cette jeune fille qui apprend à être peintre en décor. Il y a une accumulation de termes techniques, il y a quelque chose de... quelque chose de statique dans la narration en même temps, donc il y a effectivement une phase comme ça qui est un peu en suspens, qui est un peu étrange, même s'il y a de très belles pages sur la fatigue qu'on éprouve quand on travaille. Et puis dans un deuxième temps du livre, et moi c'est ce que je trouve très beau, on assiste vraiment à la naissance d'un personnage, à la naissance d'un individu qui se nourrit des autres individus, parce que, et c'est peut-être ça qui est intéressant avec celui-là par rapport aux autres livres, Kerangal s'était fait une spécialité du roman polyphonique, du roman collectif, avec Naissance d'un pont, et un peu avec Corniche Kennedy aussi d'ailleurs, avec Naissance d'un pont et Réparer les vivants. Et là, elle se concentre sur un individu qui lui-même va se nourrir des collectifs qui traversent successivement la famille, dont cette jeune fille s'émancipe peu à peu, ce groupe d'étudiants dont elle parle bien. Je trouve qu'il y a des très belles pages, au-delà du fait qu'elle est peintre en décor, qu'elle apprend à être peintre en décor, il y a des très belles pages sur les amitiés, les amours qu'on peut nouer quand on est étudiant. Et puis ensuite, il y a toute la dernière partie du livre où elle travaille, et où elle est donc une peintre en décor, c'est une sorte de personnage un peu précaire, un peu nomade. On retrouve le thème du nomadisme qu'il y avait déjà dans Naissance d'un pont, et qui fait qu'on suit cette fille dans les studios de cinéma de Cinecittà, et qu'à la fin on la trouve dans la reproduction de la grotte de Lascaux, le facsimilé de Lascaux 4, si je me souviens bien. Voilà, je suis trop long.
Pas du tout.
Pas du tout.
D'accord. J'attendais quelque chose qui soit une première chute, mais elle est très bien celle-là.
Une première chute.
Nourrit des collectifs.
Quand on est au fond de Lascaux, on peut s'arrêter pour regarder.
Et... C'est pas mal aussi. Et laisser la parole à Jean-Christophe Brianchon pour l'instant.
Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord effectivement avec l'idée qu'elle aurait livré là un livre moins. Je ne sais pas si on dit moins bon, mais en tout cas moins intéressant que les précédents. Je pense que c'est exactement dans la lignée de son précédent succès, dans le sens où c'est effectivement, comme vous le disiez, une littérature de recherche ou une littérature d'artisanat, on dira, et une littérature d'artisanat et qui s'intéresse aussi d'une certaine manière à l'artisanat. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'artisanat au sens premier du terme, puisque les personnages sont effectivement copistes, mais l'artisanat aussi, l'artisanat au sens plus large, et elle-même, dans sa démarche, se revendique, se démontre auteur artisan, puisqu'on sent bien, effectivement, par la recherche du mot, de la précision, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation que être écrivain ne serait pas seulement une question de génie ou de flamboyance, mais aussi, tout simplement, tout bêtement, une question de travail, une question de recherche, comme vous le disiez. Donc c'est pour moi un livre qui est dans la droite lignée de Réparer les vivants, et qui, en ce sens-là, va même, je pense, un petit peu plus loin. Parce que dans Réparer les vivants, évidemment, il y avait la dépiction de l'artisanat du chirurgien, on va dire, des gestes et du monde médical. Ici, il y a aussi cette description des gestes, des outils, les outils qui sont très importants dans le travail des copistes. Elle va nous chercher des mots et des outils dont on n'avait évidemment, a priori, jamais entendu parler. C'est, d'un point de vue purement langagier, assez plaisant. Mais je trouve qu'elle fait là un travail qui va même au-delà de celui de Réparer les vivants. Je trouve qu'elle elle atteint un degré de précision et justement de justesse dans l'artisanat, dans ce que peut être l'artisanat de l'auteur, qui est assez impressionnant. Ensuite, moi, je me suis quand même demandé, honnêtement, à la lecture de ce livre, pourquoi tout simplement, pourquoi ça, pourquoi les copistes, pourquoi cette histoire, finalement. Je comprenais pas bien. J'ai eu affaire à un livre vraiment, je trouve, formellement assez brillant, mais je me suis simplement demandé pourquoi. Et puis, bon, au fil de la préparation de cette émission, j'ai relu quelques pages, repensé un petit peu ma manière de l'avoir lu la première fois, et finalement, j'ai fini par comprendre quelque chose, peut-être dans son rapport à l'écriture, y compris qu'on retrouve, qu'on peut comprendre par le biais de l'épigraphe du livre, qui est « Le vent fait-il du bruit dans les arbres quand il n'y a personne pour l'entendre ?» Je trouve qu'on en reparlera peut-être, mais ça décrit tout à fait une certaine manière de penser la littérature comme étant au service d'une certaine manière du souvenir de quelque chose qui n'existera plus. Et c'est ce qu'elle fait aussi en parlant des copistes, qui de fait, entre autres à Lascaux, nous permettent de voir ce que, a priori, on ne pourra jamais, plus jamais voir.
Philippe Chevillé, enfin, pour compléter ce tour de table, avant que je n'immisce sur celui de Mélisse de Kerangal.
Alors moi, j'étais plutôt d'essence d'un pont que Réparer les vivants, qui ne m'a pas enthousiasmé. Donc voilà, j'ai pris ce livre comme ça, sans a priori, et je suis assez mitigé. Donc je vais faire un peu d'abord le positif et puis le négatif. En positif, moi d'abord, j'ai bien aimé cette idée de départ du trompe-l'œil, de ce jeu entre vérité, mensonge, plus vrai que le vrai, dans l'art, dans la littérature bien sûr, mais dans la vie aussi. Je trouve qu'elle l'a bien saisi. Je trouve qu'elle a très bien pris en compte cette fascination pour la matière et cette façon de justement, quand on parle de ces copistes avec le prof qui leur dit bon bah si vous parlez du bois il faut aller dans les bois, si vous parlez du marbre et à partir de la matière elle nous décrit le monde, et ça c'est une assez jolie idée, et on voit effectivement se développer à chaque fois qu'on aborde une autre matière cette dimension. Puis je trouve que c'est super bien écrit. C'est vrai qu'il y a, vraiment une écriture d'une fluidité avec de l'invention, de la recherche, c'est très beau. Et puis que le roman est bien construit, on suit l'histoire jusqu'au bout, on s'ennuie pas. Et là, j'arrive à ce que mon négatif. Je trouve, alors là, je rejoins un petit peu ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, c'est qu'à côté, pour moi, un peu artificiel, c'est-à-dire que je crois pas beaucoup. Il y en a beaucoup des personnages, ils ont des interactions, mais j'y crois pas beaucoup. Je trouve qu'il manque d'épaisseur, qu'il manque de à part ce moteur de la copie, je trouve qu'il y a pas grand chose derrière eux. Je trouve que l'histoire d'amour qui nous est proposé au départ avec un des copistes, Jonas, qui est son colocataire, qui nous est reprise à un moment donné parce qu'on se dit bah non, ça va pas se faire, et puis qui revient à la fin de façon échevelée. Bon, c'est pas, j'y crois pas beaucoup non plus. Donc il y a ce ressort qui est quand même un peu important qui me manque. Et puis je trouve que on tombe dans un, alors c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure, c'est le revers de la médaille. On tombe dans un certain systématisme, c'est-à-dire que le fait de coller à cette matière et à chaque fois de nous raconter des histoires, j'ai eu très peur quand on est arrivé à Lascaux qu'on ait un peu la guerre du feu à la fin du livre, ce qui n'est pas le cas, je caricature. Mais du coup, je me suis dit que derrière ce livre qui est brillant, bien écrit, qui raconte une bonne histoire, une belle histoire, où il y a des choses intéressantes, il y a quand même une forme de maniérisme, moi, qui me gêne, et de manque d'urgence, je dirais pas d'authenticité, mais qui fait que cette histoire m'intéresse, mais ne me touche pas, quoi. Fondamentalement, me touche pas assez.
Voilà. Bah, je reste un peu dans cette idée-là. Moi, j'étais très embêté avec Réparer les vivants, qui a eu un très grand succès. Et moi, j'ai quand même pas dit beaucoup de bien à plusieurs reprises sur cette antenne, parce que je ne retrouvais pas Mélisse Kerangal, que j'aime et que j'aime depuis le début. J'ai la chance de l'avoir même invitée sur cette antenne pour son premier livre en 2000, Je marche dans un ciel de traîne, et puis régulièrement ensuite. Et là, je voyais, comme c'est le cas à nouveau avec ce nouveau livre, Un monde à portée de main, et énormément de talent, mais pas beaucoup d'émotion pour moi dans la lecture. Le talent faisant peut-être un peu écran à l'émotion. Alors je me suis interrogé au départ, parce que c'est vraiment quelqu'un qui travaille d'une façon extrêmement précise, sur une récurrence un peu curieuse, sur ce terme-là d'instinct. Page 17, son corps galvanisé la portée d'instinct. Paula d'instinct se tourna vers les raccords délicats, puis un peu plus loin, Paula d'instinct plonge entre deux voitures. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Quel est ce petit caillou qui est en train de semer Mélisse de Kerangal? Mais hélas, ensuite, j'ai perdu la trace de ces mots-là, mais je n'ai pas retrouvé quelque chose qui semblait amener vers une vers des fulgurances. Et en guise de fulgurance, j'ai eu quand même plutôt des phrases qui m'ont gêné, parce que pourquoi ce livre-là? Parce que c'est une réflexion sur la création. Bon, mais ça, c'est tellement explicite que c'est aussi un petit peu embêtant. Avec des phrases comme « Elle se souviendrait avoir compris que peindre, c'est d'abord ne pas peindre, mais sortir dans la rue et aller boire une bière. » Ou un peu plus loin, « Ce qu'il veut, c'est donner à la peinture elle-même une valeur égale à ce qu'elle doit figurer. Peindre la peinture, en somme, rien d'autre ne l'intéresse. » Et je me dis que c'est un peu court, parce que je pense qu'elle a beaucoup plus que ça à dire, et que ce type de formule, tout d'un coup, moi, ça faisait des aspérités dans ma lecture. Et je me suis dit, Mélise de Carangal, qui est une femme intelligente, cultivée, extrêmement talentueuse, pourquoi elle n'a pas raboté ça? Vous voyez ce qui me dérange, Grégoire Le Ménager, dans ma lecture?
Alors, j'entends très bien. Il y a deux choses, en fait, qui vous dérangent. Il y a un côté un peu, ce que disait un peu Chevillier aussi, l'idée que c'est presque trop maîtrisé, que du coup, il y a quelque chose d'un peu glacé, quoi. Les personnages restent un peu derrière une vitre. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Et puis, il y a une deuxième chose qui est que la réflexion sur la création, qui évidemment est au cœur de ce livre, serait à la fois pas assez développée et ponctuellement trop explicite. Et je ne suis pas complètement d'accord non plus. C'est-à-dire que je trouve vraiment que j'étais un peu déçu aussi que les personnages secondaires qui, au départ, nous sont présentés comme des personnages importants, s'effacent, se délitent petit à petit. C'est vrai qu'on est un peu déçu, mais je trouve que c'est compensé par l'épaisseur. Et ça, je ne m'y attendais pas, j'ai été moi-même surpris par l'épaisseur que prend Paula Carst dans ses relations avec ses parents, dans ses relations et dans la manière dont elle s'individualise petit à petit. J'ai trouvé ça assez beau, assez fort, et sur le passage à l'âge adulte, sur les renoncements que ça implique, et tout ça, je trouve qu'il y a des pages très belles. Et de l'autre côté, pour ce qui est de l'autoportrait, parce qu'en fait, je crois même que Mélise Carangal le considère comme une sorte d'autoportrait, il y a quelque chose qui est assez bien dosé, c'est-à-dire que évidemment il y a une espèce de réflexion, il y a des embryons de réflexion sur l'illusion mémétique, sur la reproduction du réel, sur tout ça qui court un peu partout dans le livre. Alors quelquefois c'est avec des phrases qui sont peut-être un peu trop explicites, un peu trop appuyées, mais il y en a pas tant que ça. Donc là, je vous défie d'en trouver 15
qui aiment bien châtier.
Vous avez raison, il faut châtier. il faudrait pas non plus laisser croire.
Isolons cette phrase.
Il faudrait pas non plus laisser croire qu'il y a une phrase comme ça par page. C'est quand même pas un roman pompier, quoi.
Ah non, pas du tout. Mais justement, c'est d'autant plus pour ça qu'elles ont arrêté mon regard.
C'est pas du Eric Emmanuel Schmitt, quand même. Faut pas exagérer.
Ah non, mais je la tiens en très très haute estime, Mélise.
Et à l'arrivée, je trouve que je trouve que sa manière de s'obstiner à concevoir le roman quand même comme un art de faussaire qui reproduit le réel comme un trompe-l'œil. Alors là, elle explicite tout ça, elle en disséminant ses notions dans son livre. Moi, ça me réjouit plutôt, parce que dans une production littéraire qui est de plus en plus envahie quand même par des récits de soi, j'ai rien contre le récit de soi quand il est bien pratiqué, mais je trouve ça bien qu'il y ait des écrivains qui essayent encore aussi de créer l'illusion d'avoir affaire à des vrais personnages. Enfin, c'est l'anti-Christine Angot pour moi, et dans ma bouche, c'est plutôt un compliment.
On l'avait compris. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être la forme aussi du roman. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces textes plus courts, comme Ni fleur ni couronne ou À ce stade de la nuit, et puis même cet été d'ailleurs elle a écrit pour le prologue de Didon et Ned Purcell au Festival d'Aix-en-Provence, Vincent Huguet, qui faisait la mise en scène, lui a demandé d'écrire un monologue qui était porté par Roca Traoré, que j'aimerais d'ailleurs bien voir édité, parce que c'est un très beau texte, et moi je crois qu'elle a dans la forme courte beaucoup plus de liberté aujourd'hui, mais bon, c'est un sentiment qui est le mien pour l'instant. Jean-Christophe Briançon.
Effectivement, le prologue de Didon était vraiment somptueux. Ouais. C'est vrai. Après, pour ce qui est de l'aspect factice des personnages, je pense que effectivement, et bon, alors ce que je vais dire pour le défendre va peut-être desservir mon propos, mais effectivement, il y a quelque chose de factice, comme le disait Philippe, on ne croit pas réellement en toutes ces histoires, et en l'occurrence surtout en l'histoire d'amour qui lie Paula et Jonas, mais malgré tout, c'est quand même d'une habileté assez redoutable, parce que c'est sur ce trio-là que, malgré tout, même s'il est assez peu présent, va reposer toute la construction narrative et dramatique thématique du roman, c'est ce trio-là qui va permettre ces ellipses, ces retours, ces allées et venues mm-hmm. entre le présent et le passé. Et de fait, ça rend leur présence nécessaire, utile. Alors après, ça renforce aussi leur dimension factice, je le reconnais. Je pense aussi que concernant la réflexion sur la littérature qui peut sembler être la sienne, il faut au maximum s'éloigner de ça. Je pense que justement, c'est peut-être le problème. Cette réflexion est trop présente, très présente, de manière un petit peu grossière, effectivement, j'en conviens, mais c'est finalement pas du tout le propos de ce roman. Pour moi, c'est un roman qui parle de plein de choses, qui par moments parle de la jeunesse, parle du rapport des hommes à la nuit, parle de plein de choses, du rapport au temps, à l'histoire, à plein de choses, mais finalement pas tant que ça, la littérature. Ça en parle, bien sûr, enfin ça en parle puisque de fait il y a un parallèle entre les copistes et le métier de maïs de Carangal, mais c'est aussi et avant tout, comme pouvait l'être d'une certaine manière son précédent roman, dont j'oublie le
Réparer
titre,
les vivants.
Réparer les vivants, aussi d'une certaine manière un portrait d'une jeunesse qui, comme elle le dit de manière assez jolie d'ailleurs, consent à tâtonner dans le noir, et elle le rend terriblement bien hommage.
Alors avant d'entendre une dernière fois Philippe Jevillier, Boris Pinot, quelques commentaires sur ce roman sur les réseaux sociaux?
Oui, via Twitter, Virginie Galindo écrit sur le talent de Maïlys de Carangal, créer une vie, une ambiance, un rythme, une histoire en 20 lignes. Pour Sébastien Zimmer sur Facebook, Maïlys de Carangal maîtrise parfaitement son sujet en évitant lourdeurs et maladresses. Un petit bémol cependant concernant la seconde partie du roman, quelque peu ennuyeuse. Pour le reste, tout est parfait, un très bon livre de cette rentrée littéraire.
Philippe Chevillier, un dernier mot sur ce livre.
Tout est parfait. Non, mais je voudrais pas non plus. C'est vrai que j'étais peut-être un peu caricatural dans ma deuxième partie. C'est vrai que moi j'aime bien qu'on se saisisse d'une histoire et qu'on essaye de faire à travers, qu'on essaye de se raconter, de raconter ses passions et ce qu'on a envie de dire à travers des personnages, à travers une histoire. C'est tout ce que j'aime. Simplement, j'ai vraiment ce sentiment d'une construction trop visible, même si elle est brillante. Et encore une fois, moi, il y a des passages qui m'ont. Je me suis pas ennuyé en le lisant, mais je trouve que ça manque de cette de ce feu, je sais pas, qui de cette urgence. Encore une fois, alors que peut-être que c'est quelque chose d'urgent qu'elle veut nous dire, mais je l'ai pas ressenti à la lecture. Voilà.
Voyez par vous-même ce livre dont les ventes se portent très bien, je crois. Et on lui souhaite que ça continue. Un monde à portée de main de Maïlys de Carangal chez Vertical, à suivre dans la dispute des intégrations. Emmanuel Richard, Wildside de Michael Imperioli et puis le coup de cœur de Philippe Chevillier, Suspense.
Suspense.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Passons à présent à une autre auteure, Emmanuel Richard, qui publie en cette rentrée son troisième roman, Désintégration, aux éditions de l'Olivier, après La Légèreté en 2014 et Pour la peau en 2016, deux livres qui avaient reçu eux aussi un très bon accueil.
Ce chemin étroit et sombre me séduit. L'impression qui soigne mon cœur de Haïti. Couvert d'oseille et gauche sous calme. De la haine en revanche j'en ai tellement. J'ai trop traîné en baba. J'dois faire million pour baba. Tu testes ton sang le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend pas.
Un soir que je revenais du travail et croisais des jeunes gens bien vêtus en train de scander très fort en plein milieu de la rue la fameuse réplique de ce film affreux de la nouvelle vague « Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire ?» Celui où le héros finit par se repeindre la gueule en bleu, quelque chose se passa en moi de l'ordre du renversement. Si, longtemps, je n'avais ressenti aucune animosité manifeste envers les classes que l'on appelle à tort « supérieures », supérieures en quoi, à part l'argent et l'héritage ? Il me semble que c'est devant cette vision qu'une chose céda ou craqua, lâcha ou rompit à force de tension, tandis qu'une autre se cabrait, s'insurgeait, se soulevait. La neutralité que j'essayais de conserver à l'égard des privilégiés, en dépit du début d'empilement de mes expériences, se brisa.
Ce luxe de voyer ces jeunes gens jouir avec une impudence obscène, à savoir cette liberté de geste et d'action auréolée de cette insouciance et de cette assurance de propriétaire, m'écœura si violemment que je ressentis un spasme. Mes parents n'avaient jamais pu approcher ce dont jouissaient ces blancs-becs. Leur exubérance était une insupportable indécence de classe. Mes parents avaient assisté impuissants à l'étrécissement de leurs aspirations toute leur vie. Mes parents avaient dû ravaler leurs ambitions et se contraindre à la modération sans répit. Pourtant, ils avaient des rêves, comme tout le monde. Ils n'en voulaient pas moins. Ce n'était pas l'envie qui leur faisait défaut. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est la première fois que la haine en moi pulse autant, gagne mes membres un à un. Ensuite, les organes vitaux, leur enveloppe, tête et jambes, cœur et thorax, cerveau, ventre, estomac, foie, gras, nerfs, sac de peau, odieux connard. Voilà un extrait du livre d'Emmanuel Richard, Désintégration aux éditions de l'Olivier, un extrait qui n'est pas le début, se situe à peu près au cœur du livre, et c'est Jean-Christophe Brianchon qui commence à nous parler de ce livre.
Ouais, alors on l'a compris, c'est l'histoire d'une jeune femme d'un milieu populaire qui arrive à Paris et y ressent, le monde et l'ambiance de cette ville avec une violence toute particulière, violence qui est directement liée à ses origines et à l'écart qu'il peut y avoir entre ses origines et celui du monde dans lequel finalement elle va finir par s'inclure. Moi, c'est un livre que j'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé La légèreté et Pour la peau, qui étaient ses deux premiers romans. La légèreté, qui était un roman sur la découverte de la sexualité d'une adolescente de 14 ou 15 ans, et Pour la peau, qui était la description d'un amour vécu et disparu. C'était deux très beaux romans, à mon sens, des romans très introspectifs, évidemment. Et bon, là, j'ai été à la fois surpris et agréablement surpris de voir que, d'une certaine manière, l'auteur, Emmanuel Richard, sortait d'elle-même pour éventuellement nous raconter quelque chose, faire d'une certaine manière un état donné du monde. Ça a été la surprise a été bonne dans les premières pages ou dans les premiers temps de ma lecture, puisqu'ensuite apparaît quelque chose qu'on a vu exactement, je trouve, de la même manière dans le livre d'Edouard Louis, dans le dernier livre d'Edouard Louis, un rapport au monde qui se veut évidemment conflictuel, et à juste titre certainement, ou en tout cas ça ne se juge pas, mais qui est dit d'une manière très problématique, enfin très frontale et finalement très adolescente, bien a priori bien moins intelligente et posée que ne pourrait l'être l'auteur quand on sait ce qu'elle est capable d'écrire, enfin la finesse dont elle peut parfois faire preuve quand elle écrit. Donc à cet instant-là, le récit bascule ou à ces instants-là, parce que c'est des instants assez particuliers qui sont assez circonscrits finalement, des moments de violence envers le monde. À ces instants-là, elle bascule dans une facilité qui, à mon sens, la dessert grandement. Malgré tout, il y a quand même quelques autres très bonnes choses dans ce livre dont on parlera,
sur lesquelles vous reviendrez, voilà. Jean-Christophe Brianchon. Philippe Chevillé, sur ce livre d'Emmanuel Richard.
Alors, c'est un peu paradoxal parce que justement, moi qui n'aime pas beaucoup l'autofiction, j'ai été pris par ce livre. Il m'a touché, par moments il m'a dérangé, par moments il m'a profondément agacé. Mais j'ai senti justement, on parlait d'urgence, j'ai senti une urgence dans ce livre et dans la façon, dans l'écriture qui m'a touché. Je trouve qu'il était bien écrit qu'il y a côté organique, c'est-à-dire il y a plusieurs passages dans le livre. On la voit jeune d'abord, on la voit ensuite dans ce dialogue avec ce cinéaste quand elle est devenue déjà écrivain reconnu. Et puis il y a ce moment où elle va à Paris et où elle va se retrouver donc à vivre avec ces jeunes gens riches, artis, et que elle, bon, elle va ressentir tout d'un coup ce sentiment de violence, de haine. Je trouve qu'il est à la fois intéressant d'avoir cette dimension, ce style, cet engagement dans l'écriture, cette façon qu'elle a de vraiment un peu tout donner dans son écriture, et en même temps cette volonté, c'est ce que disait un peu Jean-Christophe, mais sans dire vraiment le monde, faut pas exagérer, mais au moins d'avoir une approche intéressante de la classe moyenne, parce qu'en fait elle vient d'une classe moyenne plutôt inférieure, et de se sentir non pas pas déclassée, mais d'arriver à ne plus se hisser pour des raisons économiques. Elle en parle vraiment de façon concrète. Alors, précarité et cette façon de ne pas d'avoir le personnage est très frustré de ne pouvoir se hisser à ce niveau-là. Alors, on en reparlera, mais disons très vite. Après, il y a quelque chose effectivement qui m'a agacé, c'est dans le personnage lui-même, c'est cette façon d'être finalement un peu autiste et de ne pas justement être très ouverte elle-même au monde, ce qui fait que cette obsession de vouloir se hisser se heurte aussi à cette volonté d'être à la fois par moments très sociable, mais par moments se refermer sur elle-même, d'avoir des propos parfois. Moi, j'en ai un petit peu marre de ce discours de justement, on parlait d'Edouard Louis, mais ce côté, voilà, je dis la haine, je la crache, donc finalement j'ai raison, il n'y a pas de mots, donc ça m'agace un petit peu. Et cette façon justement d'être un peu, alors à la fois un peu maladroite dans ces moments où tout d'un coup elle se dit, mais moi je suis plutôt du côté des rappeurs de banlieue, bah non, elle n'est pas, c'est pas une rappeuse de banlieue. Donc c'est, ça m'a agacé, mais en même temps ce livre il m'a bousculé, il m'a touché, il m'a interrogé, donc je me dis finalement c'est pas mal, quoi.
Oui, et puis si on a entendu PNL pendant et avant la lecture, c'est parce que Emmanuel Richard les cite directement dans le livre et comme source aussi d'inspiration d'écriture. Grégoire Leménager, Emmanuel Richard et vous.
Alors, je n'avais jamais lu Emmanuel Richard, donc je suis content d'avoir découvert la prose d'Emmanuel Richard, qui a du talent, enfin, vraiment, stylistiquement, il y a des. Sens de la punchline, comme on dit, avec des anaphores, avec des. Enfin, c'est assez fort, c'est assez percutant, effectivement. On parlait de PNL. Pour moi, c'est une sorte d'Annie Arnaud qui aurait beaucoup écouté PNL et qui aurait peut-être un peu trop écouté PNL à mon goût. Annie Arnaud, pourquoi? Parce qu'on retrouve absolument tous les thèmes d'Annie Arnaud, c'est-à-dire que le mot honte, qui est quand même un des grands thèmes d'Annie Arnaud, avec la notion d'humiliation, apparaît à peu près à chaque page. Et puis dans la deuxième partie du livre, on bascule de la... Le sujet du livre, c'est ça, c'est comment on passe de la honte à la haine, quoi. Alors là, on sort du champ d'Annie Arnaud, effectivement, pour rejoindre le camp de PNL, et ça m'intéresse un peu moins, je dois dire. Elle cite indirectement Annie Arnaud aussi, quand elle dit qu'elle voulait venger Sarah, enfin, c'est une formule d'Annie Arnaud, et tout ça. Et c'est pas mal. Le problème du livre, à mon avis, la limite du livre, c'est que ce personnage qui retient notre attention quand même pendant 200 pages, ça m'a paru un peu plus... On comprend très bien son sentiment de honte, on comprend comment elle passe de la honte à la haine, moi je trouve ça plutôt intéressant, et encore une fois bien écrit, mais au bout d'un moment je me suis dit qu'il y avait un problème, c'est que, et c'est ça qui la différencie peut-être d'Annie Arnaud, c'est qu'elle a une vision quand même extrêmement égocentrée, et du coup très manichéenne des choses, c'est-à-dire que pour elle, le monde, la société se divise en deux blocs. On a le bloc des bourgeois brillants, cultivés, insupportables. Il en existe, nous en connaissons tous. Et puis il y a le monde des vigiles de supermarchés avec lesquels elle travaille, des braves gens dont elle parle assez peu d'ailleurs. Ouais. Et elle a l'impression d'être entre ces deux mondes. Moi, je veux bien qu'elle ait le sentiment d'être entre ces deux mondes. Sauf qu'elle passe son temps à nous dire qu'elle est la seule à être entre ces deux mondes. Or, une vision un tout petit peu intelligente de la réalité consisterait à considérer que 99% des gens sont entre ces deux mondes. À des moments, et tout ça. On est toujours un peu entre deux mondes. Et je trouve que...
quand même son personnage qui est seul. Elle en parle beaucoup de cela. C'est son même s'il y a un moment une histoire d'amour.
Je sais bien, son personnage est seul, mais...
Est-ce qu'elle dit qu'elle est seule à vivre ça? J'ai pas ce souvenir, moi, dans ma lecture.
Il y a un moment où elle essaye de dire qu'avec son copain, finalement, ils sont représentatifs de toute une nouvelle génération. Ouais. Et c'est intéressant. Ouais. Et on se dit, là, ça va devenir un peu... Ça va prendre une dimension générationnelle, un peu sociologique et tout ça. Puis ça retombe, parce qu'en fait, le personnage, je sais pas si... Pas sûr que ce soit Emmanuel Richard. Le personnage est tellement auto-centré parce qu'elle a voulu, nous montrer justement sa haine, sa folie. Mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Et la grosse différence avec Annie Arnaud, c'est que Annie Arnaud, elle ne parle que d'elle. Mais en parlant d'elle, il y a quelque chose de très ouvert qui fait que on peut se reconnaître, on peut s'identifier, et qu'en fait, elle devient porte-parole elle accède à une forme d'universalité. Je trouve que le livre n'arrive pas à accéder à cette forme d'universalité.
Ah oui, je trouve effectivement très. Voilà.
Et donc, ouais, elle aurait dû moins écouter PNL, je crois.
Alors, elle n'écoute pas que PNL, hein, parce que pour la peau, quand même, le titre de précédent, ça venait de Dominique A, donc ça veut dire qu'elle écoute des choses diverses et variées et de bon goût. Des intégrations, c'est aussi en lien avec, pour cette fois, le cinéma, le film de Philippe Faucon, la désintégration dont il est question à un moment donné dans le livre. Ça, ce sont plutôt des belles sources, mais c'est vrai que sur l'écriture, il y a des choses qui sont assez réjouissantes. Donc, juste deux très courtes citations. À un moment où elle parle de la putain de culture dite générale, la putain de culture hégémonique, un homme et une femme, c'est fou comme ils se touchent, le louche. C'est fou comme elle minaude à nous qu'aimer et comme on aura envie de lui démonter les molaires une à une pour qu'elle arrête. Voilà, je trouve que c'est une image assez belle, mais comme est très belle autrement, mais cette autre notation, parce qu'il y a une assemblée de jeunes gens qui sont toujours très très beaux, qui traînent dans sa coloc à un moment donné, elle écrit « Sacha était beau à décapiter comme les autres ». Je trouve ça une assez belle idée que les gens soient si beaux qu'on a envie de leur trancher la tête. Alors pour moi, il y a du très bon et du moins bon, mais alors j'ai l'impression d'avoir pris le livre à l'envers, puisque moi, la narration alternée de la première partie, qui est quand même la plus longue, fonctionne, je trouve, pas de façon très heureuse, et j'ai pris... Il y a quand même des notations qu'on a lues et relues ailleurs, hein, ce que vous indiquez les uns et les autres, mais je trouve que le style sauve beaucoup, parce que la vision est parfois, je vous rejoins aussi Grégoire Laménager, un peu simpliste, on va dire, mais j'ai trouvé que la deuxième partie, là, elle était beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace, beaucoup plus incisive, beaucoup plus courte aussi, et que cette façon de dégueuler sa haine, pour moi, je trouvais qu'elle était opérante. Philippe Chevillier ?
Mais oui, mais c'est un peu le paradoxe, comme ça, c'est que moi, d'une certaine façon, je préfère, d'un point de vue littéraire, les moments où elle se lâche vraiment et où j'ai envie un peu de m'énerver après elle. Et les parties où les plus soft sont peut-être pas forcément celles que je préfère aussi. Donc c'est ça, je me dis, ce livre, on peut pas le tailler, on peut pas le découper, on peut pas le... Et je me vois bien face à une personne comme elle, finalement à m'engueuler, puis mais dire finalement, bon, le livre, il est vraiment bien quand même. Mais je suis pas d'accord avec vous, quoi. C'est ce sentiment comme donne ce livre, donc d'une urgence et du fait qu'on peut pas vraiment le...
Bon, il a pas le réduire.
Mais ouais. On n'arrive pas à enlever quelque chose parce que c'est un tout avec ses défauts et ses qualités.
Jean-Christophe Briançon.
Moi, je doute pas qu'il y ait une urgence, je doute pas qu'il y ait une urgence fondamentale, mais pour autant, il est assez difficile de s'en rendre compte. Finalement, je trouve que justement, c'est tellement dit, tellement finalement vernissé, qu'il y a quelque chose qui nous sépare de son urgence finalement. Exactement comme chez Édouard Louis, encore une fois. Après, pour ce qui est de l'universalité, du manque d'universalité de son propos dont parlait Grégoire, je trouve que finalement, c'est pas forcément un problème, dans le sens où je suis pas absolument pas certain que ce soit ce qu'elle essaye d'atteindre. Comme vous le disiez, elle dégueule une réalité qui est la sienne, qu'elle n'aime pas et qu'elle veut déplorer. Après, de là à dire qu'elle fait un portrait du monde tel qu'il est et ne devrait pas être, en l'occurrence, je pense que c'est lui donner un petit peu trop de crédit, finalement. Elle est juste
trop
là.
Trop de responsabilité.
Trop de responsabilité, exactement. Elle est là pour décrire une réalité qui est la sienne, qu'elle a ressentie, et qu'elle décrit
et qu'elle partage.
Sur le rythme et sous la forme du ressenti.
Dernier mot, Kawar le Ménager. Pas mieux.
Oui, c'est très très lyrique. C'est presque un peu trop lyrique. C'est-à-dire que effectivement, moi, je suis assez sensible à ce que dit Chevillier. Quand vraiment elle s'énerve, quelque chose de très fort, pourquoi pas. Au moins, ça crée un peu d'électricité. Et c'est vrai que elle essaye, même dans les parties un peu plus calmes, de tout raccrocher pour expliquer comment va naître la haine. Du coup, moi, je sais pas, toutes les pages sur ses relations avec les garçons quand elle est jeune. En plus, elle a pas de chance. Son livre sort, ça fait 6 mois qu'on entend parler que d'histoires comme ça, de filles qui ont l'impression de vivre une domination chaque fois qu'elle couche avec un garçon. Il y a un peu un côté comme ça dans sa vision de ses rapports avec les hommes et qui tombe un peu à côté, je trouve, du propos général.
Bon, on voit qu'on a quand même beaucoup de choses à dire, les uns et les autres.
Mais c'est un livre intéressant.
À la lecture de Désintégration d'Emmanuel Richard aux éditions de l'Olivier.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute littérature avec Wildside et le suspense demeure. Hein, Philippe Chevillier, vous avez compris que le coup de cœur, ce sera juste avant la fin. Wildside, c'est un livre de Michael Imperioli, publié chez Autrement, dans une traduction d'Héloïse Esquier. Il est connu pour son rôle dans Les Sopranos, Michael Imperioli. Une autre facette de ses talents, donc, avec ce premier roman, qui nous plonge dans le New York des années 70, à la suite d'un jeune homme ayant grandi dans le Queens et qui, suite à un héritage un peu inattendu, va lui permettre de s'installer dans Manhattan et va suivre dans ses aventures aussi son voisin musicien, un certain Lou.
When you pass through the fire, you pass through humble, you pass through a maze of self-doubt. When you pass through humble, the lights can blind you, some people never figure that out. You pass through arrogance, you pass through hurt, you pass through an ever-present past. And it's best not to wait for luck to save you, pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. It's best not to wait for luck to save you. Pass through the fire to the light.
J'étais assis sur le rebord de mon lit dans l'appartement 6K. C'était à peu près l'heure du dîner et il faisait grand jour. J'entendais des pas au-dessus du plafond, au plafond au-dessus de moi plutôt, des voix et des cris qui s'élevaient du trottoir et de l'immeuble d'en face, des hélicoptères qui fendaient le ciel, des ambulances et des voitures de police qui gémissaient dans la rue et, peut-être pire que tout, le bruit incessant de l'ascenseur qui hoquetait dans sa cage. Merde, comment allait-il m'être possible de vivre ainsi? Comment trouver la moindre paix? Je n'en revenais pas de tout ce que je pouvais entendre. Je me croyais habitué au bruit. Jackson Heights, ce n'est pas non plus Hicksville. C'était une zone très animée et on habitait près de l'artère principale, mais c'était sans comparaison avec la 52e rue Est. J'avais envie de dire à ma mère que ça ne pouvait pas marcher, que c'était trop pour moi et qu'il me fallait absolument rentrer dans le Queens. J'ai tenu ma langue et nous sommes sortis dîner. Nous avons marché jusqu'au Wellington Restaurant, un diner en fait, à quelques rues de chez nous. Ma mère m'a annoncé que j'avais un entretien le lendemain matin dans ce qu'elle espérait être mon nouveau lycée. Elle m'a précisé que c'était un lycée privé. J'en ai conclu qu'il s'agissait d'une école religieuse. C'était une mauvaise nouvelle. L'idée de voir ma vie régentée par des nonnes et des curés catholiques ne me réjouissait pas du tout. Mais je n'ai rien dit. Je m'en suis tenu à ma règle stricte qui consistait à ne pas poser de questions sur ce qu'il se passait dans nos vies. Tout ce que j'ai demandé, c'était à quoi était la soupe du jour. Philippe Chevillé, c'est votre côté wild qui vous a fait choisir ce livre, j'imagine, de Michael Imperioli.
Wild Side, en fait le livre s'appelle d'ailleurs, il a un autre nom en américain, en anglais, puisqu'il prend le... Il faudrait que je le retrouve ce nom.
Le parfum de, brûle ses yeux.
Voilà, qui est extrait de Romeo and Juliet, chanson qu'on retrouve dans New York, un disque de 89 de Lou Reed, qu'il a sans doute écrit précédemment. Mais évidemment, pour le vendre en France, Wild Side, ça fonctionnait mieux. Ça évoque quand même plus Lou Reed que The Perfume Burn His Eyes.
Enfin, là, on a mis Magic and Loss parce qu'il en parle, il le cite aussi,
oui,
à la fin du livre.
Beaucoup. Alors, c'est un livre singulier. J'ai lu pas mal de livres américains qui sont vraiment pour moi de très bons livres. C'est pas forcément le plus grand, mais il a un charme, celui-là, particulier. Ça m'a amusé d'abord de voir cet acteur qui... Alors, il n'est pas seulement Les Sopranos, parce qu'il a fait des rôles, des seconds rôles dans une quarantaine de films, y compris Scorsese, Spike Lee, etc. Ouais. Beaucoup de télé aussi. Et puis, ce premier roman, parti de l'idée qu'il voulait écrire un roman adolescent. Il pensait, je pense, à son fils qui avait 16 ans, justement, comme le héros, comme son héros Matthew. Et ça a coïncidé... un peu, je crois, à la mort de Lou Reed en 2013. Et puis, c'est un fan de Lou Reed. Donc voilà, ça s'est bâti comme ça. Et du coup, on a l'histoire de cet adolescent qui va se retrouver dans New York et avec un voisin qui est Lou Reed et qui va devenir une sorte de père de substitution, mais qui sera pas si présent que ça dans le livre. D'ailleurs, son ombre est là, mais il y a beaucoup de scènes qui se passent sans lui. On voit ce gamin dans ce lycée. Il a une petite amie, Véronica, qui est un genre de sorcière.
C'est une
sorcière. Il y a un côté conte, mais très noir, parce qu'on est confronté à la prostitution, à la mort, à la folie. Et je trouve que ce roman initiatique a un naturel dans sa façon d'être raconté, qui m'a ému. J'aime beaucoup la façon dont il s'est attaqué aussi au personnage de Lou Reed, parce qu'il aurait pu prendre le Lou Reed du Velvet, le faire un petit peu plus tôt. C'est le Lou Reed qui est, en fait, d'ailleurs, on se demande pourquoi, et il se retrouve d'ailleurs à Manhattan, mais il a vraiment habité là, avec Rachel, donc son ami transsexuel. Et il est un peu, alors il écrit des bons, il y a des bons disques qui vont sortir, comme Island Baby par exemple, mais il est quand même un petit peu sur le côté. Il y a des gens qui ne savent pas qui c'est. D'ailleurs, dans le livre, on le voit, c'est amusant, on ne sait pas qui c'est, Lou Reed dans le quartier exactement.
Il expérimente beaucoup à ce moment-là.
Il expérimente beaucoup. Et la façon dont il le fait intervenir, ça correspond effectivement à l'image que je peux avoir de Lou Reed, qui n'est pas un personnage forcément très sympathique à la base, mais qui intervient comme un bon génie d'une certaine façon, en tout cas pas un mauvais génie pour ce garçon. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on peut le prendre comme ça, un roman initiatique et social aussi, puisqu'il y a une dimension sociale dans ce lycée justement privé. Ouais. Il y a des gens de la haute dans ce lycée-là. Et comme un roman intelligent sur un jeune homme, mais on peut le prendre aussi comme un genre de conte de fées où l'auteur, au lieu de rêver sur le cow-boy qu'il aurait emmené sur son cheval, Roy Rogers, comme chantait Elton John, ou d'imaginer que c'est un super-héros, non, c'est Lou Reed, il est fan de Lou Reed, il en fait un peu le héros de ce livre, et un côté touchant là-dedans, et comme le livre, je trouve, est quand même bien construit et nous embarque joliment dans cette histoire, voilà pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je l'aime.
Voilà, vous l'aimez. Alors, est-ce que nous qui l'avons lu, nous partageons votre enthousiasme? On va le savoir du côté de Grégoire Leménager d'abord.
Eh ben oui, vraiment. Oui.
Quel suspense.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez raconté. Il y a une chose peut-être qu'il faut dire quand même, c'est que c'est drôle aussi.
Oui,
c'est souvent très très drôle. Dès les premières scènes, là, quand il est au McDo avec son copain obèse qui s'empiffre dans le burger, il y a une façon de raconter ça.
Son record, hein, c'est 4 double cheese, 4 frites et 4 milkshakes pour le 4 juillet.
Ouais, voilà, c'est ça, oui. Et il y a une scène aussi où Lou Reed l'envoie fourguer un vieil ampli à l'autre bout de Manhattan alors que le gamin, il a pas de permis de conduire, il se met dans une situation pas possible. Il y a quelque chose d'assez comique, ce qui n'empêche pas toute la noirceur, tout le côté social et tout ça. Donc ça c'est formidable. C'est effectivement raconté avec une forme de naturel et de décontraction. Je pense que ça doit être assez bien traduit aussi, me semble-t-il, quand même.
Et Louise Esquier, très bonne traductrice.
Je rends hommage à la traductrice. Il y a quelque chose de très naturel tout le temps dans le livre. Moi, pourtant c'est un univers très différent, mais ça m'a rappelé des souvenirs de certains livres de John Fante, quoi, dans cette espèce de mélange de noirceur sociale, de comique,
de débrouille. Et de galère, beaucoup.
Et puis de décontraction. Et puis enfin, il y a le sort fait à Lou Reed, et ça, chapeau, parce que c'est quand même peut-être une des choses les plus difficiles à faire, de représenter à l'intérieur d'une fiction un personnage dont on a tous des images, dont on a tous, sur lequel on a déjà tous une idée. Le risque est toujours très grand de, je vais encore dire du mal d'Eric Emmanuel Schmitt, mais de faire que ça ressemble à une pièce d'Eric Emmanuel Schmitt avec Freud, quoi. Enfin, et là, ça ressemble pas à ça.
Vous allez lui donner l'idée de faire une pièce sur Lou Reed.
Oh là là. Bon. Et là, Lou Reed est très étonnant. Il est pas plus sympathique que dans la vie.
Il est plutôt bienveillant envers ce jeune homme.
Il a un
homme,
côté bienveillant, mais aussi un côté inquiétant. Il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est que la première fois que ce gamin apparaît, Lou Reed dit à son copain ou sa copine, je ne sais pas comment l'appeler, Rachel, mais il lui dit « T'as quoi, 14 ans ? Putain, mais c'est pas vrai. Il n'est pas question d'envoyer des gosses chez moi. Fernando, il veut me faire coffrer ou quoi ?» Donc il y a un suspense aussi. Est-ce que Lou Reed va croquer ce jeune agneau à un moment ou à un autre ? Il y a des relations très très étranges qui se nouent avec ce personnage, qui reste au bout du compte une énigme, et ça c'est fort aussi. Je suis pas sûr que ce soit un grand livre, mais c'est un très très bon roman.
Peut-être que dans cette rentrée littéraire, avec des choses un peu denses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait aussi partie des plaisirs de lecture d'avoir un livre qui se lit beaucoup plus facilement, qui nous emmène tout à fait ailleurs et qui n'a peut-être pas de prétention plus haute que celle de nous faire rentrer dans cette vie un peu dingue. Jean-Christophe Briançon, chose que vous avez apprécié?
Si on considère, comme vous le dites, comme étant un livre qui n'a pas d'autre prétention que de nous faire rentrer dans un univers, je suis entièrement d'accord. C'est un livre qui est d'une efficacité absolument redoutable,
mais
et d'une intelligence aussi assez remarquable.
Et puis bien fait.
Il y a même évidemment un talent littéraire, parce que quand même l'intrigue est relativement fine. Hein. Elle tiendrait sur un post-it, il n'y en a pas. Enfin, c'est la vie de cet enfant à cet endroit-là du monde, à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas d'autre intrigue que le quotidien de cet enfant. Donc, ce n'est pas évident de tenir, je sais pas, de 200 pages là-dessus, 250, je sais pas.
Ouais,
donc, ce n'est pas forcément évident. Et il y arrive effectivement au travers de certains moments, mais qui m'ont semblé assez isolés, pas dans le sens où ils sont peu nombreux, mais dans le sens où ils sont très circonscrits, ces instants, comme celui où effectivement Mathieu va chercher l'ampli pour Lou Reed, qui est remarquablement écrit, comme aussi cet instant où il part avec sa copine se prostituer dans un appartement glauque, chez quelqu'un de tout aussi glauque. Donc voilà, c'est des instants qui, malgré une intrigue assez fine, font vivre un roman et le font très bien vivre et font qu'on le lit très bien. Après, j'ai toujours un petit problème avec ce genre de romans qui ont quelque chose à voir avec le pastiche. C'est un roman à la manière de... Alors, ce sera un roman, comme on le dit partout, à la manière de Salinger, et donc qui pastiche d'une certaine manière une forme de littérature, mais qui la pastiche bien. Donc, c'est pas forcément un problème, mais qui quand même s'en revendique. Alors, je sais pas s'il s'en revendique, mais en tout cas, s'y apparente tellement que ça finit par frôler le pastiche. Et non seulement il pastiche une forme de littérature, mais aussi une forme de mode de vie. Parce que la façon dont le mode de vie de Lou Reed est décrit, et certainement, je n'en sais rien, mais a priori, j'imagine qu'il s'est informé, certainement très fidèle à la réalité.
Voilà. Il y a une documentation
pour
là
autant,
aussi.
Pour autant, très, voilà, très, d'une certaine manière, caricatural. Donc on a quand même toujours l'impression d'être dans un roman à la manière d'eux, et dont le naturel, parfois, friserait la naïveté.
Bon, on va s'arrêter là-dessus parce que le temps nous presse et que le suspense est à son comble pour Philippe Chevillier qui va reprendre la parole dans un instant après que j'ai rappelé que Wild Side de Michael Imperioli est publié chez Autrement dans une traduction d'Héloïse Esquier. Fin du terrible suspense. Mais quel est donc le coup de cœur de Philippe Chevillier ? Quel est le livre que nous avons refusé de lire pour en privilégier un autre ? Non, je plaisante. On va comprendre pourquoi je dis ça. L'affaire Sparse Holt de Alan Hollinghurst chez Albin Michel. C'est ce livre-là que vous avez choisi, Philippe Chevillier, et pourquoi ?
C'est mon coup de cœur, So British. Donc, j'aime beaucoup cet auteur qui avait déjà excellé avec La piscine bibliothèque et puis L'ami étranger, surtout. Et là, il nous amène donc un roman qui est très très dense, hein, énorme. On peut pas en rater vraiment une page parce que c'est très 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 écrit à la façon british. Il se passe énormément de choses, des personnages, beaucoup de personnages. On a une vision de l'Angleterre entre Oxford au moment du Blitz et puis on arrive à l'Angleterre d'aujourd'hui, à Londres aujourd'hui, en passant un peu par le Swinging London, à travers un monde qui est plutôt un monde homosexuel dans sa majorité, même si tous les personnages ne le sont pas. Qui est donc ce Sparse Holt, David Sparse Holt? Ça commence un peu comme théorème de Pasolini. Il y a un personnage, un jeune homme qui arrive, qui va séduire un petit peu tout le monde. Il n'est pas homosexuel a priori, mais il va séduire aussi bien les garçons que les filles. Alors je vous dirai pas ce qu'est l'affaire Sparse Holt parce que on le sait au tiers du livre, donc ça serait trop en dire.
Ça serait trop divulgué.
Mais sachez seulement que bon, ce David Sparse Holt va y avoir un fils, Johnny, qui va prendre un peu sa place, qui lui sera affiché gay, qui va fréquenter les amis de son père, qui sont devenus des critiques d'art, des collectionneurs. Donc il va être dans ce monde arty, lui-même étant portraitiste. Et on a finalement une vision de cette Angleterre un peu arty et en même temps complètement repliée sur des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire le choc, les contradictions entre cette Angleterre ouverte, homosexuelle, et de l'autre côté qui est encore très fermée et où il faut encore se méfier quand on est homo dans l'Angleterre des années 60-70, qui s'ouvre. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que le début, ça commence, cette ambiance Oxford, c'est un peu dans la tradition Foster du roman anglais. Il arrive à être aussi à l'aise dans la description assez classique de cette université dans les brumes. Et à la fin, nous emmener pendant peut-être une cinquantaine de pages, peut-être un petit peu moins, dans une boîte gay de Londres aujourd'hui. Et que ça soit, on se dit, il va pas y arriver parce que c'est trop... mais non, il y arrive. C'est
bien documenté là aussi.
C'est bien documenté, mais surtout, non, mais c'est écrit, c'est bien écrit. Et alors, il y a cette dimension sociale, il y a cette dimension aussi alors sur les seniors gays, qui est assez intéressante à suivre, qui est une seconde chance après... après des tas de choses qui leur arrivent. On suit les personnages jusqu'au bout. C'est très foisonnant, c'est très british et... moi, je recommande ce livre, mais il faut du temps pour le lire. C'est plutôt quand on a un grand week-end devant soi qu'une nuit, quoi.
Alors, il me manque une information cruciale. Vous avez dit que c'était bien écrit. Il me manque...
Et bien traduit par voilà. François Rosso.
François Rosso, l'affaire Sparsholt de Alan Hollinghurst chez Albin Michel. C'est l'heure du jeu de la dispute, l'heure où nous rejoint Sarah Dion, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, pour nous donner ensuite sa réponse, Sarah.
Quel collectif défraie régulièrement la chronique en publiant des vidéos filmées au sein d'abattoirs ?
La réponse est...
L214.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour découvrir le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris à l'occasion de son 20e anniversaire. Quelle est donc la question, Sarah ?
La question est, en quelle année le musée d'art et d'histoire du judaïsme a-t-il ouvert ses portes ?
Ah mince, alors j'aurais pas dû tourner ma phrase comme ça peut-être alors. Quoique, on peut se tromper.
Ambitieux là du coup.
À un an près, vous savez ? Bon bref, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions ou plus simplement vous abonner au podcast de la dispute. Demain, 19h, une dispute cinéma en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, où nous vous attendons tous les vendredis. Nous serons en compagnie de Lucille Como, Florence Colombani et Charlotte Garçon pour parler ensemble de... Solers Point Baltimore de Matt Porterfield, Scheherazade de Jean-Bernard Marlin. Il y aura un petit salon de Lucille Como à partir du cas Invasion de Kiyoshi Kurosawa. Pourquoi refaire le même film ? Et puis un coup de cœur, et là aussi je vais peut-être laisser le suspense en disant que le coup de cœur sera signé Florence Colombani.